Thibaut de Rouvray, bonjour.
Bonjour Mathias Terrier.
C'est toujours un plaisir de vous entendre, vous, historien, avec aussi cette capacité à transmettre, à nous dire ce qu'il faut comprendre de notre patrimoine quand on le voit, quand on le regarde et qu'on l'admire. En particulier, tout ce patrimoine dédié au sacré, nos églises, nos chapelles, dans nos villes et nos villages, tous ces lieux qui sont façonnés par la foi des gens au fil des siècles. Alors, on découvre avec vous aussi que la musique habite ces lieux, à travers non seulement une structuration, chœur, chancel, jubé, le chantre qui tient une place particulière. Aujourd'hui, avec vous, si vous le voulez bien, nous parlons d'instruments. Avant de parler de l'orgue, qui est l'instrument incontournable pour parler musique dans une église, j'aimerais juste que vous nous disiez ce qu'est un serpent.
Oui, le nom est un peu curieux, mais c'est le nom, effectivement, en plus de l'animal, c'est le nom d'un instrument de musique qui était assez courant dans les églises, même dans les paroisses rurales, jusqu'au XIXe siècle. Une sorte d'instrument qui produit un son très grave, un peu comme un cor, mais qui a vraiment physiquement la forme d'un serpent. Enfin, si on le regarde même sur un moteur de recherche, c'est voilà, quelque chose avec des assez courbé, et souvent les fabricants, les facteurs de ces objets faisaient représenter une embouchure en forme de tête de monstre, de dragon.
Donc l'instrumentiste soufflait dans ce serpent pour, en quelque sorte, rythmer les chants liturgiques.
Voilà, tout à fait. Un son assez grave, mais qui permettait de soutenir le chant de la chorale.
Bon, allez, maintenant parlons d'orgue, parce que des serpents, il y en a bien peu aujourd'hui dans nos églises. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'il en reste. Vous en connaissez ?
On en a quelques exemples, mais qui sont plutôt dans des musées, mais qui ne sont plus en tout cas en usage.
Parlons d'orgue. Ces orgues qui ont une place incontournable concernant le chant liturgique. D'ailleurs, alors je ne sais pas si on va pouvoir faire un petit cours d'orthographe, mais on parle de grandes orgues, on parle de l'orgue. Comment s'y retrouver? C'est la même chose?
Oui, mais c'est vrai que c'est un orgue, ça fait partie des mots qui sont à la fois, je dirais, masculin au singulier et féminin au pluriel. On parle des grandes orgues, mais d'un orgue, voilà.
Voilà, dès qu'on le rend pluriel, ça devient féminin.
Voilà.
Bon, mais c'est bien, d'une certaine façon, comme ça, ça rassemble tout le monde. Est-ce qu'il y a une variation notable de l'esthétique de l'instrument au cours du temps ?
Oui, alors ce sont des instruments qui existent depuis probablement l'Antiquité. On parle d'orgue à l'époque grecque et romaine. Alors ces exemples-là n'ont pas été conservés. Mais on a une évolution au moins depuis le XVe siècle avec l'exemple d'instruments conservés.
Oui, qui ne jouent plus vraiment de l'orgue, j'imagine, parce qu'au XVe siècle, ça remonte quand même.
Oui, alors souvent, il en reste des éléments notables. Le buffet, alors, un des plus anciens reconnus, c'est l'orgue qui se trouve à Sion, en Suisse, où on a un buffet qui date de 1430. Mais voilà, mais toute la partie instrumentale n'est pas d'origine.
À Saint-Savin, près de Lourdes, il y a un orgue du XVIe siècle. Est-ce qu'on peut encore l'entendre ?
Oui, alors cet orgue, qui est daté des années 1550, avait beaucoup souffert. Pratiquement toute sa mécanique avait disparu, mais il a pu être restauré dans les années 70, dans son état d'origine, et il fonctionne, donc on peut avoir l'instrument tel qu'il fonctionnait au XVIe siècle.
Nous avons parlé d'orgues médiévaux, d'orgues renaissance. Quels sont les autres styles, quels sont les autres instruments qui se sont déployés après dans les siècles qui ont suivi?
Alors on a une part importante, notamment dans la région, de ce qu'on appelle l'esthétique baroque français, donc avec des grands instruments qui ont été réalisés au XVIIe et XVIIIe siècle.
Et baroque français, donc très présent à Tarbes, oui?
Oui, voilà, on a un exemple des années 1680.
Oui, et il y a d'autres villes dans lesquelles on peut trouver ce type d'orgue baroque français.
Oui, on en a l'exemple à la cathédrale de Montauban, pour un exemple de 1672. À Auch aussi, une réalisation de Jean de Joyeuse des années 1680. Et ensuite, des exemples du 18e. Alors, le plus imposant, en tout cas par les dimensions, c'est le grand orgue Moucherel qui se trouve à la cathédrale d'Albi.
Alors vous nous parliez d'orgues baroques français, on trouve ça normal qu'il y ait du baroque français en France. Il y a aussi des orgues baroques allemands.
Voilà, tout à fait, pour la musique allemande de cette époque-là, notamment de Bach, qui est particulière. Donc on a des instruments qui ont souvent été construits récemment. On en a l'exemple dans l'ancienne église qui est devenue le musée des Augustins à Toulouse. Et bien là, un instrument baroque allemand a été réalisé.
Au fond, ce que vous nous dites là, c'est que à chaque fois qu'on a un genre musical ou une musique particulière qui vraiment imprègne une époque, on est capable de construire des instruments dédiés à cette musique.
Voilà, avec des jeux, avec une capacité de pouvoir interpréter la musique de leur époque.
Il y a de la grande période romantique, alors c'est le 19e siècle. Est-ce qu'on a des exemples d'orgues romantiques ?
Oui, tout à fait. Alors là, c'est la grande période parce que c'est la période où justement on a modifié des orgues antérieurs, notamment avec des facteurs d'orgue comme Aristide Cavaillé-Cole. Donc on les a mis au goût du jour. Donc on en a beaucoup d'exemples dans tous les départements, notamment à Toulouse. On en a un exemple aussi à Lourdes, à la Basilique supérieure, à la Basilique de l'Immaculée Conception.
Est-ce qu'il y a d'autres évolutions de ces orgues ensuite, après, fin 19e et 20e siècle ?
Oui, alors on va évoluer après dans des instruments où on a encore de plus en plus de possibilités, avec les orgues dits symphoniques. Là, c'est vraiment la toute fin du 19e siècle. C'est l'exemple aussi, pour rester à Lourdes, l'exemple de la basilique du Rosaire. Et on va évoluer au 20e siècle dans des instruments néoclassiques qu'on peut là aussi trouver à la basilique Saint-Pédis de Lourdes.
Le néoclassique, alors nouveau classique, je ne sais pas si on peut dire ça, ça permet quoi ce néoclassique ?
Voilà, ça permet d'avoir une grande variété de jeux, de pouvoir interpréter. Alors, on ne va pas forcément interpréter des morceaux très anciens dessus, mais il y a beaucoup plus de facilité à traverser les siècles sur le plan musical.
Il y a un personnage auquel il faut que nous nous intéressions un tout petit peu, c'est le facteur. Alors, ça n'est pas le facteur qui apporte les lettres, hein, entendons-nous bien. C'est le facteur d'orgue. Voilà. Il sert à quoi ? Il est qui ?
Alors, le facteur d'orgue, c'est le fabricant, en fait. Hein. Donc, c'est un corps de métier assez complexe parce qu'il faut savoir travailler le métal. Hein. Les tuyaux sont en plomb, en étain. Il faut savoir aussi travailler le cuir, hein, pour les souffler, les peaux, et puis être un bon ébéniste, un bon technicien, parce qu'il y a des jeux de transmission très complexes. Donc, c'est une fonction très, très ancienne. Alors, qui a été occupé parfois par des religieux. Il y a un facteur d'orgue célèbre, c'est le moine bénédictin Dom Bedos, qu'on croise parfois dans la région, à Toulouse, à Saint-Sauveur-de-Rustan, et quelques ateliers qui existent encore de nos jours pour construire ou entretenir les orgues existants.
On a d'autres grands noms comme ça de facteurs d'orgue qui sont réputés, connus. Vous nous avez parlé de Dom Bedos.
Voilà, Dom Bedos de Celles, qui lui intervient au XVIIIe siècle. Alors c'est un moine très savant. Il a aussi, c'est moins connu, mais réalisé un traité pour fabriquer des cadrans solaires. Autre facteur là du XIXe siècle, c'est Aristide Cavaillé-Cole et toute une dynastie d'organistes et de fabricants, de facteurs d'orgue dans cette famille.
Je pense qu'on trouve un orgue Cavaillé-Cole à Lourdes, par exemple.
Voilà, tout à fait, oui, pour les orgues notamment des basiliques du sanctuaire.
Bon, l'orgue, nous l'avons compris, a évolué au fur et à mesure des siècles, même si fondamentalement cet instrument reste le même, dans le sens où ce sont des vents qui sont envoyés dans des tuyaux et qui donc, par un jeu, permettent d'avoir des sonorités les plus diverses. L'orgue, au-delà de sa place dans la musique liturgique, on a l'impression qu'il est vraiment presque personnifié dans une église. Il a une place qui va au-delà même de la musique. D'ailleurs, lorsqu'on regarde, c'est vous qui allez sans doute nous préciser tout cela, la bénédiction d'un orgue, on est frappé par le rite de bénédiction.
Oui, c'est vrai que comme tous les objets qui prennent part à la liturgie, pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir participer à cette liturgie, il faut une bénédiction, une sacralisation par l'intermédiaire de l'officiant, et ça va être une cérémonie qui n'est pas très courante, mais lorsqu'on restaure un orgue, on a eu l'exemple à Lourdes suite aux inondations récentes, lorsqu'on restaure, on bénit à nouveau l'instrument, et c'est un véritable dialogue entre le célébrant et la mécanique.
Voilà, donc l'orgue devient une presque une personne, entre guillemets.
Qui va s'animer peu à peu, hein, puisqu'au fil du dialogue avec le célébrant, l'évêque ou son représentant, l'instrument va faire preuve de tous ces différents sons.
Pour terminer sur le sujet des orgues, je ne résiste pas à vous interroger sur l'orgue de Saint-Savin à côté de Lourdes, là où il n'y a plus que de la musique, il y a presque de l'animation autour et au-dessus. Ça bouge parfois même quand l'organiste joue. Mais pourquoi ?
Alors c'est vrai que c'est un exemple d'orgue du XVIe siècle, une époque où ce sont des instruments assez ludiques qui sont pourvus de jeux particuliers. Et c'est vrai qu'à Saint-Savin, vous avez en partie inférieure trois masques, trois têtes de bois. Et si l'organiste le souhaite, il peut actionner un jeu qui va faire claquer les bouches, hein, de ces trois masques comme des sortes de castagnettes. Et on a aussi deux autres jeux intéressants. Il y a un qui déclenche, qui fait tourner un petit soleil et une étoile sur la façade de l'instrument. Et un troisième jeu amusant aussi, on remplit un petit récipient d'eau et avec l'air qui s'engouffre, ça imite le chant d'oiseaux.
Bon, dernier mot sur les orgues, ce qui est assez complémentaire, c'est le livre qui accompagne l'orgue, parce que les organistes ne peuvent pas jouer de mémoire, hein, à chaque fois les pièces qui leur sont demandées. Il y a des noms qui sont affectés à ces livres qui sont posés sur l'orgue.
Voilà, des livres qu'on voit parfois être présentés dans les églises ou dans les sacristies qui sont souvent assez impressionnants avec des reliures et des formats énormes, des grosses notes carrées et qui ont des noms différents selon les pièces jouées. On peut trouver des graduels, des antiphonaires ou même des responsoriales.
Graduel, antiphonaire, responsorial. Voilà, des beaux mots pour désigner ces livres qui accompagnent la liturgie, pièces grégoriennes, antiennes, hymnes ou encore psaumes, que sais-je. Bref, tout cela au service de la musique et de la prière dans les églises. Merci beaucoup à vous, Thibaut de Rouvray, et on se dit à très bientôt sur cette antenne. Au revoir.
À bientôt.